talmudique. Catherine Chalier, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de la pureté et de l'impureté que nous avions commencé la semaine dernière, après avoir expliqué ce que le pur et l'impur dans la tradition juive, ses liens avec la vie et la mort, l'ouvert et le fermé, après avoir découvert le rituel du lépreux et le sens de ces termes dans le cadre de la cacheroute, après avoir pensé ces catégories dans leurs oppositions et leurs exclusions, vous nous avez proposé une nouvelle voie, au-delà de ces oppositions, une nouvelle voie que vous appelez l'autre pureté, celle que l'on rencontre au sein même des mélanges, une forme de pureté du mélange qui ouvre à la complexité de ces notions utilisées de façon souvent très manichéenne. J'aimerais approfondir avec vous cette autre pureté, à la fois à partir des textes bibliques, mais aussi des textes du chassidisme, de la littérature et de la philosophie. Parmi les exemples de cette autre pureté, celle dans laquelle les forces du pur et de l'impur coexistent, vous nous présentez un premier exemple très intéressant que vous empruntez au livre de l'Exode. Il s'agit de la Ketoret, ce parfum que Moïse dut confectionner pour le rituel du sanctuaire du désert et qui sera encore en usage plus tard dans le temple de Salomon à Jérusalem. Qu'est-ce que ce mélange odoriférant, ce parfum divin, dans lequel, d'ailleurs, le texte dit qu'il devait y avoir un ingrédient qui sente mauvais, sinon la bonne odeur n'aurait pu exhaler. Catherine Chalier.
Oui, alors c'est un verset qui dit ceci. Donc, il faut choisir différentes essences végétales et d'un poids égal. Je cite le verset, tu en composeras un parfum composé selon l'art du parfumeur, bien mélangé. Ce sera une chose pure et sainte. Taor Vekadosh, Kodesh. Donc c'est une composition obtenue par l'art du mélange et Rashi dit, insiste, ce mélange sera pur. Ensuite, il est expliqué dans le texte que Dieu seul pourra respirer ce mélange. Je ne fais pas ce mélange pur pour moi, pour le respirer. Donc Dieu seul peut le respirer, mais par contre, je peux en faire un parfum que je peux vendre aux autres, je peux en faire du commerce. Mais ça ne peut pas faire retour sur moi. Et donc, cette pureté du mélange est intéressante dans un texte comme la Bible, qui, on l'a vu, et aime beaucoup aussi les séparations. Et donc, en fait, ça nous donne à penser une idée que l'on trouve également dans la Kabbale. Il y a des dimensions de l'émanation divine qui doivent être unies, et cette union est ce qui donne la possibilité de la pureté. Et l'un seul, celui-là, il est inaccessible pour nous. Et on voit aussi, sans rentrer trop dans les détails de la Kabbale, parce que ce serait un peu difficile, que cette Kabbale, elle nous indique aussi une voie pour penser pureté et impureté, comme j'essaie de le faire dans ce livre, en termes de force, en termes d'alliance, et non pas donc en termes d'essence, close sur elle-même et la pureté, et que l'impureté viendrait abîmer, altérer, etc. Elle annonce qu'il y a une altération qui est une altération vivante, qui est une altération, et au contraire, si dans ces émanations divines, l'une était tout à fait à part, seule, eh bien, elle serait impure et elle serait destructrice. Et on peut prendre l'exemple simplement de deux émanations, la justice stricte et l'amour, eh bien, n'ont de sens qu'à rester unis, n'ont de sens qu'à rester en alliance. Et donc, c'est dans cette voie qu'il faut aussi chercher la pureté. Et donc, voilà un exemple dans le texte biblique. Alors, l'exemple est intéressant parce qu'il est un exemple extrêmement concret. Et donc, ça, c'est le propre aussi du judaïsme, de pas simplement essayer d'évoquer une idée de façon abstraite, mais de lui donner la concrétude la plus grande. Ouais.
Alors c'est vraiment très intéressant, ce qui veut dire qu'une société qui serait fondée que sur la justice serait une société inhabitable, de la même façon qu'une société qui ne fonctionnerait que sur l'amour serait aussi inhabitable. Il faut l'un et l'autre, ce mélange qui est justement de l'ordre de la pureté. Alors pourquoi dans le cas de cette cotorette, de ce parfum, de cet encens, est-il possible d'en faire commerce? C'est quelque chose. Est-ce que ça veut dire que, bien que ce soit quelque chose de pur dans le mélange, le commerce qui va encore mélanger cet objet à travers la société va renforcer sa pureté?
Oui, tout à fait, parce que ce commerce, c'est pas simplement pour m'enrichir moi, c'est aussi parce que c'est un parfum. C'est aussi quelque chose de pur, donc, mais aussi de bon et d'agréable, et qui doit être aussi un bien commun, qui doit être aussi donné aux autres. Et donc, la part du commerce est ici tout à fait importante. Il y a aucun interdit porté sur le commerce, comme si le commerce était nécessairement quelque chose qui soit égoïste pour que ça me rapporte de l'argent.
Alors, c'est intéressant là aussi, parce que ça serait le fait de thésauriser ce mélange pur,
oui, bien sûr,
qui serait impur.
Tout
c'est-à-dire
à
qu'à vouloir de la pureté et être le seul possédeur de cette pureté transforme la personne en personne impure, non pas par essence, comme vous l'avez souligné, mais comme un état qui peut bien sûr changer. Et vous donnez un autre exemple très intéressant qui se trouve dans le rituel de la fête de Soukhot. On est plus habitué à ce rituel que celui du parfum du temple. Il s'agit du rite de l'oulav, du bouquet de la fête de Soukhot. De quoi est-il constitué exactement et en quoi ce mélange, justement, là encore, au lieu de constituer de l'impureté, offre de la pureté, Catherine Chalier?
Alors, là aussi, je vais lire rapidement le verset qui est au Lévitique, chapitre 23. « Vous prendrez le premier jour du fruit de l'arbre Adar, le cédra, des branches de palmier, des rameaux de l'arbre Abot, myrte, et des saules de rivière, et vous vous réjouirez en présence de l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. » Et donc, la tradition juive, ensuite, a donné un sens symbolique à chacun de ces arbres. Le cédra aurait bon goût et une bonne odeur. Et donc, il s'agit de celui qui étudie la Torah et qui fait des bonnes actions. Le palmier, il serait comestible, mais inodore. Donc, ça serait celui dont la sagesse ignore la nécessité de faire des bonnes actions. Le myrte a uniquement une bonne odeur. C'est celui qui agit bien, mais qui n'a pas de sagesse. Et le pauvre saule n'a ni goût ni odeur. Et donc, c'est celui qui manque de sagesse et ne peut se prévaloir d'une quelconque bonne action. Et ce qui m'a intéressé dans ce bouquet, donc, qui est agité lors de la fête de Soukhot par chacun, c'est que la pureté rituelle du bouquet, c'est la pureté rituelle d'un mélange. Et comme je dis dans le livre, viendra l'idée de personne de dire « Ah ben moi, je ressemble plutôt à tel arbre et je prends juste ma branche qui correspond à moi. » Chacun fait partie du mélange en cet instant. Et donc, dans ce cas, aucun quant à soi, comme tout à l'heure dans l'exemple que nous prenions à propos de la Ketoret, aucun quant à soi ne peut garantir la pureté, mais au contraire, le consentement à l'altérité, à l'altération, et permet donc la joie de la pureté du mélange pendant 8 jours.
Ça a des conséquences politiques et non seulement communautaires. Ça, vous venez d'évoquer comment chacun peut se ressentir dans cette joie, justement, du mélange. Mais ça a des conséquences d'une grande portée. Vous l'évoquez dans votre livre. En un mot, comment cette symbolique se traduit-elle au-delà de la sphère liturgique et communautaire du judaïsme, Catherine Chalier? Alors, soit dans l'exemple de la Ketoret, soit dans l'exemple du bouquet de Soukhot.
Ensuite, ce que j'essaie de montrer, que ça implique aussi deux attitudes. Ce qu'on pourrait appeler la purification de ce qui est impur. Et là, on a un exemple justement d'un mélange qui est la pureté, mais aussi la purification de la pureté elle-même. Ces deux thèmes me semblent tout à fait importants à expliquer. Et donc, je développe un peu ces idées dans la suite du livre. Alors, en particulier par un thème qui est très important dans la tradition rachidique, si quelqu'un est considéré justement comme absolument impur, souvent, bon, on va dire, bon, il faut s'en écarter. Parce que on a dit dans la première émission que l'impureté, c'est ce qui nous entraînait vers le désespoir, vers la mort, vers tout ce qui est négatif, et donc faut essayer de s'en protéger. Et précisément, il y a une idée qui me semble très intéressante, c'est qu'au contraire, faut essayer de l'approcher. Mais si je veux l'approcher et que je garde mes beaux habits de pureté, eh bien, je ne vais pas arriver à l'approcher. Et donc, le thème qui se trouve dans la tradition hassidique, chez le rabbi de Polnoï en particulier, c'est cette idée qu'il faut savoir descendre dans l'impureté. Donc ça, c'est un thème très important, c'est-à-dire descendre justement chez ceux qui ne savent plus remonter, et donc enlever ses habits les meilleurs, essayer même de mimer le comportement de celui qui est descendu très bas et donc qui est proche du 50e degré d'impureté, là où là tout va se perdre, pour pouvoir essayer de remonter avec lui. Mais c'est très difficile et les rabbins chassidiques mettent en garde contre cette attitude en disant certains n'en sont pas revenus. Donc il y a aussi un danger, c'est le danger de se perdre soi-même. Et là, dans le chassidisme, ça fait allusion au mouvement sabbatianisme, le mouvement soi-disant du Messie Sabbatai Zvi, qui avait renoncé à plein de mitzvot et qui menait une vie tout à fait, et puis qui a fini par se convertir à l'islam plutôt que de devenir le Messie des Juifs, etc. Alors là, donc, dans la tradition chassidique, c'est dit qu'il faut bien s'attacher. Et s'attacher, c'est s'attacher aux paroles de la Torah pour pouvoir remonter, mais pas remonter tout seul.
Oui, on voit dans de très nombreuses histoires chassidiques, que ce soit le Baal Shem Tov ou le Rabbi Yosef de Polnoï que vous avez évoqué, ou encore l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Bratslav, qu'il se déguisait comme homme simple, comme paysan, comme cocher, pour pouvoir aller dans le peuple, ici avec un sens non péjoratif, le peuple, le petit peuple, et avec pour pouvoir justement les remonter un petit peu comme un pêcheur de perles qui doit descendre profondément pour remonter et faire sentir surtout à chacun ce que Rabbi Nachman appelle sa nekuda tova, ça veut dire son point positif ou sa vitalité. C'est peut-être ça la dimension de l'énergie, de la force de pureté dont vous parlez, c'est-à-dire non pas dire que l'un est pur ou l'autre est impur, mais de faire sentir à chacun qu'il a en lui quelque chose de positif. C'est cela que vous voulez dire, Catherine Chalier?
Mais en fait, je suis venue à cette idée en pensant à une citation du rabbi de Kotz qui dit « Il suffit de peu pour que l'impur contamine le pur ». Mais il ajoute, et je pense que je ne suis pas tellement d'accord avec lui, il ajoute « L'impur ne peut pas devenir pur simplement par contact avec la pureté. » Et moi, je me suis demandé s'il n'y a pas aussi, dans certaines attitudes de ceux qui sont considérés comme impurs, c'est-à-dire, encore une fois, donc, dans le désespoir, dans la haine, dans tout ce qui donne le goût de la mort, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parfois, un appel au pur? Bien sûr, je sais très bien que l'attitude peut être au contraire de dénigrer le pur, de s'en moquer, de le haïr, de vouloir sa mort. Je sais que ça existe, je suis pas naïve. Mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose d'autre.
Catherine Chalier, vous êtes philosophe, mais les illustrations que vous donnez dans votre livre pour éclairer vos démonstrations sont aussi empruntées à la littérature et en particulier à Victor Hugo. Je pense aux cloches que nous venons d'entendre, une allusion à un passage de Notre-Dame de Paris, mais je pense aussi à cet épisode des égouts de Paris que vous empruntez aux Misérables, avec un autre épisode encore des Misérables, Jean Valjean, qui vole les bougeoirs en argent et la réaction de Monseigneur Myriel. Victor Hugo serait-il le chantre de cette autre pureté? Et expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez pensé que les cloches que l'on vient d'entendre, et je sais que beaucoup de personnes se diront, mais des cloches dans Talmudique, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle métaphore par rapport à cette autre voie, cette autre pureté, cet oxymore d'une pureté impure ou d'une impureté pure, c'est-à-dire de ce mélange selon les exemples que nous avons vus en première partie de l'émission?
C'est Victor Hugo qui donne cet exemple dans des cloches, dans un très très beau passage que je cite de Notre-Dame de Paris.
Vous pouvez le lire d'ailleurs.
D'abord, la vibration de chaque cloche monte droite, pure, et pour ainsi dire isolée des autres, dans le ciel splendide du matin, puis peu à peu en grossissant, elles se fondent, elles se mêlent, elles s'effacent l'une dans l'autre, elles s'amalgament dans un magnifique concert, ce n'est plus qu'une masse de vibrations sonores qui se dégage des innombrables clochers. Cependant, cette masse d'harmonie n'est point un chaos. Si grosse et si profonde qu'elle soit, elle n'a point perdu sa transparence, vous y voyez serpenter à part chaque groupe de notes qui s'échappe des sonneries. Et donc, voilà, cette quête de pureté au cœur du mélange humain, est-ce qu'elle est simplement une fantaisie de Victor Hugo, même si elle est tentante, ou bien est-ce qu'elle est possible? Alors, la plupart des gens qui se veulent raisonnables vont dire tout ça, c'est de la littérature, dans un sens assez péjoratif, parce que la plupart des gens pensent que les mélanges tels qu'ils existent actuellement, et c'est vrai que l'actualité nous donne bien sûr très souvent le sentiment qu'il en va ainsi, que des forces qui se mélangent entre elles sont souvent des forces qui se détestent entre elles, qui s'accusent entre elles, qui se menacent entre elles, qui veulent occuper toute la place, etc. etc. Mais ici, l'image de Victor Hugo, c'est des forces qui ne s'annihilent pas les unes les autres, mais dont chacune grandit grâce à l'autre et en écoutant les autres. Et donc, peut-être là, c'est une manière aussi de chercher la pureté autrement, et on voit surtout que cette pureté, elle n'est pas celle d'une essence, comme nous l'avons déjà dit. Cette pureté, elle consent tout à fait, mais avec gratitude, à une altération profonde qui la touche. L'altération n'est pas une atteinte à ma pureté. Cette altération, elle va être ici, dans ce cas, une altération qui va aussi permettre que la part que je peux donner à la vie de ce monde, et c'est ça la pureté, c'est la part que nous pouvons donner à la vie de ce monde, à la vie avec les autres, grandisse. Et Victor Hugo a une vision très juste sur ce point. Et dans le second extrait auquel vous faisiez allusion, c'est dans Les Misérables, lorsqu'il traverse les égouts de Paris, il s'aperçoit que c'est un cloaque absolument abominable, que l'air est totalement souillé, mais dedans il y a aussi, et alors il cite des objets précieux, comme si les gens avaient laissé dans ce cloaque immonde des pierres précieuses, des objets de grande valeur, et puis s'est noyé dans ce cloaque. Et alors il a comme une espèce de vision d'une possibilité de purifier ce cloaque grâce à l'eau. Et donc là, il y a tout un programme écologique absolument extraordinaire et qui permettra à la fois de rendre sa pureté à l'ensemble et puis aussi de sauver ce qu'il y a à sauver dans ce cloaque. Et c'est une idée intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas toujours à sauver dans un cloaque?
Et il parle aussi d'un programme écologique très moderne, de la purification de l'air de Paris,
oui, oui,
dans les différents contacts avec ces eaux du cloaque dont vous parlez. Oui. Et il y a un troisième moment dans votre livre où vous convoquez encore Victor Hugo, qui est ce moment où Jean Valjean a volé les bougeoirs de Monseigneur Myriel. Et vous dites que là, il y a vraiment quelque chose de ce mélange du pur et de l'impur, mais pour la vie.
Mais c'est en fait, si on y réfléchit bien, c'est exactement la même idée que je viens de dire par rapport au cloaque. En ce sens que cet homme qui revient du bagne, et d'ailleurs qui a été condamné de façon extrêmement injuste, mais ce qui l'a complètement aussi rendu dur, méchant et prêt à beaucoup de choses néfastes, et le pari est le même que dans le cloaque. C'est-à-dire, il y a, alors là, cette fois, non pas au fond des égouts, mais même chez la personne qui a été le plus loin dans un comportement négatif, il y a une étincelle bonne. Et cette étincelle bonne, eh bien, en effet, si elle est recouverte par un cloaque, ne peut pas grandir. Et donc, ici, le cloaque, c'est l'injustice de la société, c'est la maltraitance, etc., etc. Et donc, le pari, c'est le pari du pardon, le pari de non, tu m'as pas volé, tu m'as juste promis de devenir un honnête homme, ce qu'il n'a pas promis. Bon. Et là, ça rejoint ce que nous disions à l'instant de cette descente vers justement celui qui seul ne peut pas se relever, mais qui peut-être en est encore capable.
Oui, j'ai senti une grande proximité entre ces misérables de Victor Hugo et entre Victor Hugo lui-même et Rabbi Yosef de Polnoï, une même énergie, une même volonté, un même désir, une même générosité à comprendre qu'il faut descendre dans les profondeurs un peu noires pour faire remonter ceux qui y sont, chacun à sa façon, l'un par la littérature, par ses mots, et l'autre par son comportement, par son engagement. Mais Victor Hugo aussi était très engagé politiquement. Je pense qu'il y a vraiment là une autre pureté que vous évoquez. Alors, on a vu que porter les habits de l'impureté n'est pas sans danger. Vous avez parlé de Shabbat Haïssi. J'aimerais, parmi les multiples réflexions que vous abordez dans votre livre, aborder les quelques pages sur lesquelles il est question de la culture. Aucune culture ne se développe sans emprunt, dites-vous. Sa puissance créatrice en dépend et en vit. L'échange culturel opposé à la fascination de l'origine pure. Et vous convoquez un auteur que l'on n'attend pas particulièrement dans ce débat, le grand islamologue Ignace Godsiller. Catherine Chalier, échange culturel qui n'est pas métissage, dont nous avons parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que cet échange culturel qui n'est pas métissage?
Oui, je réponds à cette question, mais je voudrais préciser sur ce grand personnage, c'est à la même époque où les orientalistes soudainement déliraient sur l'aryanité, lui tenait un tout autre discours. Et justement, donc ce discours sur les mélanges qui peuvent être créateurs et non pas du tout destructeurs. Bah, il me semble, vous voyez, souvent on entend des expressions telles que celles que je vais dire, ça c'est un emprunt à. Bon, ou bien ce texte a été influencé par. Je pense que là c'est des explications qui n'explique rien du tout. Bien sûr que nous sommes tous influencés, bien sûr que personne ne pense à partir de rien, mais ça n'explique rien. Et sur ce point, je m'oppose un peu au courant moderne qui consiste à dire les grands textes religieux de l'humanité causent énormément de violence, et parce qu'il y a des passages qui semblent inciter. Mon avis, si on veut justifier sa violence, on peut toujours en trouver de toute façon. Il n'y a pas besoin. Mais surtout, c'est une espèce d'espérance un peu naïve. On va montrer que c'est le contexte historique qui explique des passages qui sont violents. Et ainsi, cette violence va disparaître. Et puis, on va montrer aussi qu'il y a des emprunts, qu'il y a des influences, qu'il y a des mélanges, etc. Ça explique rien du tout. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'une tradition, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'elle choisit d'emprunter? Pourquoi elle emprunte ceci plutôt que cela? Maintenant, quelle question elle va poser à ce qu'elle vient d'emprunter. Comment elle va le faire grandir? Comment elle va le développer? Et qu'est-ce que ça va devenir? Mais c'est ça, un mélange qui est aussi un mélange créateur. Ce mélange créateur, il ne me réduit pas à ce que j'ai emprunté, parce que j'ai fait quelque chose de vivant avec ça, une œuvre vivante, une œuvre créatrice. Je dis « je », c'est pas moi, ceux qui le font. Et c'est en particulier vrai. Par exemple, on peut dire, vous avez interviewé cette personne récemment, il y a dans le Coran des passages qui sont certainement des emprunts à la tradition juive, voire au Midrash, etc. C'est exact, on peut les retrouver quand on connaît le Midrash. Mais voilà, ça, en soi, c'est un fait. Mais ce qui compte, c'est ce que le Coran en a fait lui-même. Comment il vit avec ça, comment il les a interprétés, en oubliant sans doute que ça a été un emprunt. Mais c'est pas grave.
Comme c'est le cas, par exemple, pour le déluge, où historiquement, on sait que le déluge biblique est emprunté à l'épopée de Gilgamesh. La question n'est pas de savoir pourquoi c'est emprunté, où que c'est emprunté, mais qu'est-ce que les auteurs hébraïques ont fait de ce texte. Même si on peut quand même dire, je crois que c'est intéressant, c'est que en ayant conscience de l'emprunt, on dit quelque chose d'une culture, il y a peut-être une forme de gratitude aussi. C'est-à-dire que ça peut se retourner en forme de gratitude. Nous avons été exilés en Babylonie pendant 70 ans. Nous avons été élevés, cultivés par des mythes, par des intelligences qui étaient de ce pays ou de cette culture. Et le fait de la reprendre et d'en parler en hébreu serait une façon d'être justement juif, au sens où juif en hébreu, Yehudi, vient du mot leodot, qui veut dire remercier. Être juif, dit Rashi, c'est celui qui sait dire merci. Peut-être parfois un emprunt qui dit merci est un emprunt de l'ordre de la pureté dans votre troisième voie, Catherine Chalier.
Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut savoir dire merci et reconnaître ses emprunts, mais il arrive un moment à travers les âges où peut-être cet emprunt est un peu disparu de la conscience des personnes. Et je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Parce que si on a emprunté pour faire quelque chose de destructeur, c'est, vous pouvez dire merci, mais ça n'aide pas beaucoup. Donc ce qui me semble, c'est comment les emprunts, les influences vont nourrir aussi une singularité, la singularité d'une culture, la singularité d'une œuvre, la singularité d'une vie, et comment elle va le nourrir et permettre de grandir. Donc,
Pour la vie.
Pour la vie, bien sûr. Mais pour la vie, mais pas la vie qui se déploie comme celle d'un arbre, la vie qui se déploie en alliance avec les autres vies. Et c'est quand même ça le message essentiel du judaïsme, me semble-t-il.
Merci Catherine Chalier pour ces deux semaines de dialogue. Le sujet n'était pas facile et vous nous avez aidé à y voir plus clair dans ces concepts qui nécessitent patience et subtilité. Je renvoie les auditeurs à votre très beau livre où chaque page apporte une étincelle de plaisir de lecture et d'un sentiment de devenir non seulement plus savant mais plus intelligent. J'en rappelle le titre, Pureté, impureté, une mise à l'épreuve aux éditions Bayard. Je signale aussi le titre d'un autre de vos livres qui sort ces jours-ci, que vous avez consacré à Rabbi Shmuel Bornstein sous le titre L'espoir chassidique, paru aux éditions Arfuyen. Merci encore Catherine Chalier.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Cédric Châtelus, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques concernant notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Kol Tov, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.